Delroy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.
Zone B, Tobe Hooper, troisième partie. Malgré le semi-échec de Poltergeist, échec en termes de box-office, la carrière de Tobe Hooper n'est pas encore sur la sellette. La Canon, dirigée par De Lascar, Menahem Golan et Joran Globus, alors producteurs d'innombrables séries B, voire Z à bon marché, vise plus haut et offre sur un plateau un budget de 25 millions de dollars à Tobe Hooper pour Life Force. En 1984, un tel budget était considérable, surtout pour une production indépendante. Une occasion inouïe pour Hooper d'aller jouer dans la cour des grands et de se faire définitivement un nom aux côtés de Carpenter, Cronenberg ou De Palma. Le roman de Wilson Collins, Les vampires de l'espace, est adapté par Dan O'Bannon, le géniteur d'Alien et le réalisateur du presque mythique aujourd'hui Retour des morts vivants. Life Force est une sorte de synthèse de toutes les obsessions et thèmes du célèbre scénariste ayant fait ses débuts sur Dark Star de John Carpenter. Life Force possède un script de fou furieux, cause de l'échec du film à l'époque et des très mauvaises critiques qui ne virent qu'un fourre-tout, un mélange absurde d'horreur et de SF pompé sur Alien. Pour rappeler un peu l'histoire délirante de ce film presque culte aujourd'hui, l'équipage de la navette spatiale Churchill découvre un impressionnant vaisseau extraterrestre comportant trois corps enfermés dans des cercueils de verre. En ramenant ces corps sur Terre, l'équipage fait une grossière erreur. Lorsqu'ils se réveillent, ils vampirisent les êtres humains, leur soutirant non pas leur sang, mais leur force vitale. Pour survivre, les victimes encore vivantes se voient obligées de vampiriser à leur tour. La pandémie est alors inévitable, sauf si l'on arrête la source qui a pris l'apparence sublime du corps de Mathilde Amet. Le mélange entre épouvante gothique et science-fiction moderne, s'il a froissé les esprits à l'époque, n'a pas pris une ride aujourd'hui. Au contraire, le film se bonifie avec le temps, les remarquables effets spéciaux de John Dykstra, la superbe photographie du grand chef opérateur Alan Hume et l'interprétation sans faille, notamment du trop rare Steve Reisbach, concourent à la réussite flagrante de ce film injustement méprisé à l'époque. L'originalité du propos, en dépit de quelques longueurs, est soutenue par la mise en scène énergique et parfois insolite de Hooper, qui n'hésite pas à invoquer les fantômes de la Hammer dans un cadre ultra-moderne de SF adulte. Le résultat est stimulant et confirme tout le bien que je pense du réalisateur depuis longtemps. Son goût pour les cadrages insolites, son penchant pour l'humour noir et les éclats gore, cette manière presque unique d'imbriquer des univers opposés au sein même d'un même récit, font de Hooper un réalisateur à part, un peu oublié à cause d'une filmographie inégale. Et puis un film où Mathilde Amet, alors âgée de 19 ans, se promène nue pendant tout le film, enfin surtout au début, est un plaisir pour les yeux qui ne se refuse pas. Hélas, Life Force est un échec, ce qui n'empêche pas la Canon de continuer sur sa lancée et de proposer à Tobe Hooper de réaliser un remake d'un petit classique des années 50, alors plongé en pleine paranoïa anticommuniste, Les envahisseurs de la planète rouge de William Cameron Menzies. Invader from Mars, version 86, est à la fois un authentique ratage et en même temps un film fascinant, culotté, complètement hors norme. Il reprend la trame de l'original, soit l'histoire d'un petit garçon passionné d'astronomie qui va se rendre compte que des extraterrestres envahissent la Terre en prenant le contrôle de l'esprit des habitants grâce à un implant introduit dans le cou des victimes. La relecture de ce classique passe par une bonne dose de mauvais goût, des éclairages vifs à base de rouge, de vert, de bleu, d'une réalisation baroque où Hooper se lâche en termes de cadrage et de composition des plans. Et que dire des effets spéciaux, à la fois délirants et kitsch, à l'image du look des E.T., proche de grosses couilles sur pattes. Évidemment, pas besoin d'être Einstein pour deviner que le film s'est écrasé au box-office, enterrant définitivement la carrière d'Hooper, du moins dans la cour des grands, aux côtés de Cronenberg, De Palma ou Carpenter, comme je le disais précédemment. La suite est fin au dernier épisode.
Gilderoy, nous allons faire un film fantastique.
Garbo, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.